vient d'être 17h et vous êtes en direct sur les zones des 52 radios partenaires du studio Kalangou. Le journal en français, c'est avec Rouquette Abdraman. Les titres. Des mouvements forcés de population se sont intensifiés en 2022 dans la région de Tillabéri à cause de l'insécurité. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, a relevé 136 incidents violents en 5 mois. Lancement ce matin à Niamey de la Semaine africaine des sciences dans le cadre de la promotion des sciences en milieu scolaire et universitaire. On en parle dans ce journal. En partie magazine, nous parlerons de la communication non violente dans la gestion des conflits. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. L'athlète nigérienne Amina Saini est championne du meeting Ostrava en République tchèque sur 200 mètres dames. Elle a battu l'américaine Alison Felix plusieurs fois médaillée d'or olympique en un temps record de 22 secondes 22 tiers. Dans la région de Tillabéri, les mouvements forcés de population se sont intensifiés en 2022 à cause des attaques perpétrées par les groupes armés non étatiques, notamment contre les civils. C'est ce que rapporte le rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, publié le 23 mai. Plus de précisions avec Refika Taher.
Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, 136 incidents sécuritaires ont été enregistrés au cours de la période de janvier à avril 2022 contre 93 sur toute l'année en 2021. Ces incidents sécuritaires qui ont presque doublé cette année ont provoqué le déplacement interne de plus de 58 000 personnes. Par ailleurs, 43 civils ont été tués et 22 autres enlevés dans les départements de Torodi, Tera et Gotei, précise le communiqué d'OCHA. Face à l'ampleur des mouvements dans cette partie de la région de Tillabéri, les acteurs humanitaires estiment que le plan de réponse humanitaire pour le Niger aura besoin en 2022 d'une enveloppe de plus de 550 millions de dollars. Mais pour l'heure, le plan de réponse humanitaire n'a reçu que 10% de financement, indique le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA.
Lancement ce matin à Niamey de la Semaine africaine des sciences, qui est une initiative de Next Einstein Forum, une conférence non gouvernementale. Cette rencontre, qui s'étalera jusqu'au 4 juin 2022, vise à promouvoir les sciences, notamment en milieu scolaire et universitaire, en se basant sur les activités pratiques, souligne Dr Moussa Hassan Ousseini, ambassadeur de Next Einstein Forum, au micro d'Ali Tajissir.
Toutes les activités de la promotion de la science visent à faciliter cet environnement de la recherche afin que les Africains et surtout les jeunes filles à s'intéresser davantage aux questions scientifiques, parce qu'aujourd'hui la science, l'innovation et la recherche, c'est le moteur de développement de toute la science. Elle est vue aujourd'hui par certains groupes d'élèves ou d'étudiants comme étant c'est les meilleurs, c'est les plus intelligents qui sont au niveau de la science. En fait, c'est un domaine comme les domaines de la littérature, mais ça a besoin juste donc d'un effort. Et l'effort, c'est surtout des fois d'amener donc les jeunes à pouvoir regarder certaines réalisations effectives de ce qu'on leur apprend. Et ce qui manque quelque part au niveau de notre système éducatif, c'est les pratiques.
Le ministère de la Santé publique, dans un point de presse animé hier après-midi, a apporté des éclaircissements sur la gratuité du traitement du paludisme au Niger. Dr Ilyas Idi Maynassara a indiqué que les patients de plus de 5 ans sont soumis aux dispositions de la loi sur le recouvrement du coût adoptée en 1996. On l'écoute.
En termes de gratuité du traitement du paludisme, au niveau communautaire, les patients de moins de 5 ans situés dans les villages distants de plus de 5 km d'un centre de santé sont pris en charge par les relais communautaires. En cas de suspicion de palu, le relais effectue un test de dépistage rapide et ce test est gratuit. Si ce test est positif, le relais communautaire administre gratuitement aux malades un traitement antipaludique pendant 3 jours. En cas de signe de gravité, le patient est référé au CSI le plus proche après l'administration de suppositoire d'artesunate. Pour les patients de plus de 5 ans, quelle que soit la maladie, doit payer un montant qui varie de 900 à 1100 francs en fonction de CSI.
Propos recueillis par Ali Tajissir. Avant l'installation de la saison des pluies, les responsables de la brigade régionale de la police sanitaire de Dosso recommandent à la population d'assainir leur environnement, d'une part pour éviter les inondations et le paludisme, d'autre part. Écoutons Souley Seydou, chef service hygiène et assainissement, au micro de Nana Hadiz Hassan.
En cette période de la saison hivernale qui s'annonce, nous lançons un vibrant appel à la population de la façon dont ils ont l'habitude d'assurer la salubrité de l'alentour de leur concession. Nous les exhortons à aussi assurer cette salubrité. Aussi, nous lançons un appel à cette population d'éviter les déchets solides dans les caniveaux qui sont conçus pour faire drainer les eaux de pluie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois que ces caniveaux construits à grands frais sont débordés des ordures ménagère, ça bloque le passage des eaux. Une fois l'eau stagne, ça favorise la prolifération des moustiques qui nous causent le palud dans notre localité. Pour la sensibilisation, nous utilisons tantôt des relais qui passent porte à porte pour sensibiliser la population sur le palud ainsi que la prévention du palud.
Depuis quelques jours, les habitants de la ville d'Agadez se plaignent de la qualité de l'eau distribuée par la société d'exploitation. Selon ces consommateurs, l'eau du robinet est turbide et cette situation les inquiète. Le reportage est signé Moussa Maman.
L'eau du robinet, ces derniers jours à Agadez, a une couleur inhabituelle. Et cette turbidité inquiète les consommateurs qui craignent pour leur santé.
L'eau vient quand même, mais avec une couleur comme s'il y a de l'argile dedans. On ne peut pas consommer cette eau-là puisque nous craignons d'être tombés malades.
Depuis quelques jours, on a remarqué que l'eau que nous consommons au niveau des robinets a changé de couleur.
Selon le directeur régional de la Société d'exploitation des eaux du Niger, cet aspect de l'eau est provoqué par des travaux au niveau de leurs installations. Sidiku Abdoulaye Boro, chef d'exploitation Sine d'Agadez.
La nouvelle station de pompage qui est à Afra, à une vingtaine de kilomètres d'ici, c'est cette station qui est en phase d'essai. Certainement, les gens ont vu que les tuyaux, les grosses conduites là, qui étaient là en ville, donc c'est elle qu'on est en train de rincer. Donc, hormis ce rinçage, on a aussi rincé le nouveau château. Donc, obligatoirement aussi, dans le robinet des gens, ça ne sera pas parfait. Donc, en termes techniques, c'est ce que nous on appelle la turbidité. De toutes les façons, les gens ne doivent pas s'inquiéter. Parce que nous, avant de la distribuer, on a analysé.
La société d'exploitation de l'eau rassure les consommateurs que cette situation n'est que passagère.
Problème d'eau toujours dans la région d'Agadez, mais cette fois-ci à Arlit. Depuis quelques mois, cette ville rencontre des difficultés dans l'approvisionnement en eau potable. Pour pallier à la situation, une délégation s'est rendue le dimanche au camp de captage situé à 25 km d'Arlit, conduite par le député Bachir Sidi Abdelaziz. Selon ce dernier, c'est pour trouver une solution durable au problème d'eau, suivant ses explications au micro d'Ousmane Oumar.
Arlit est alimenté en eau potable par 5 forages opérationnels. Il y a 2 autres dont les travaux sont terminés. Un est déjà opérationnel. Le 7e a une panne du transformateur. La Seine a fait la demande d'un nouveau transformateur qui va être acheminé bientôt. Quand il sera fonctionnel, cela va faire 7 forages. Sur les 6 forages fonctionnels actuellement, plus celui qui sera dépanné, nous aurons une production d'à peu près 6 millions de litres par jour. La population d'Arlit, qui fait 80 000 habitants, sera servi en eau potable, mais nous sommes confrontés à 3 problèmes. Premièrement, la Seine doit prévoir un deuxième groupe de réserve. Il y a la question de la sécurisation des champs de captage. Là où les forages ont été construits, il y a les riverains avec leur bétail. Ils observent l'exploitation de l'eau, mais n'en bénéficient pas. Une problématique qui peut entraîner un conflit. Avec le préfet, nous avons discuté pour voir comment trouver une solution localement.
Près de 450 ménages de la commune rurale de Tondikandia, région de Tillabéri, sont sans abri depuis le dimanche, selon le maire. C'est le passage d'un vent violent accompagné d'une forte pluie qui est à la base de cette situation. Plus de précisions avec Issa Nuhu, le maire de la commune rurale de Tondikandia, qui a effectué le déplacement dans les villages sinistrés. Il est au micro de Hassan Momouni.
Le dimanche en fin d'après-midi, il y a eu une pluie accompagnée d'un vent violent sur les villages de Gumbibanda, les deux Hainishmoru et Jolé, qui a occasionné d'énormes dégâts. Hier, nous avons passé la journée dans la zone où nous avons constaté de visu les villages de Gumbibanda totalement détruits, les tôles arrachées, les maisons en banco tombées, les cases et hangars ne se comptent pas. À Hainishmoru, nous avons trouvé tous les hangars du marché à terre. Le vent a arraché aussi la tôle du CSI et détruit toutes les cases du village. Les familles impactées sont au nombre de 32 à Jolé, 164 à Gumbibanda, Hainishmoru Mouredo 167 et Hainishmoru Goubeido 67. Nous n'avons pas encore le nombre de maisons tombées et les autres dégâts matériels, car ce sont les agents de la protection civile et de l'agriculture qui étaient de notre délégation qui s'occupent du recensement. Il n'y a pas eu de pertes en vies humaines, mais des blessés. Une femme de chez le chef de village de Gumbibanda a même été évacuée à Fandou. À Hainishmoru, il y a au moins 10 blessés, dont certains sont soignés au CHU du village et les autres se soignent traditionnellement.
L'autonomisation économique de la femme nigérienne se concrétise dans la région de Diffa. En effet, les femmes du village de Bagara ont créé un marché il y a de cela 2 mois, non loin du marché central de la capitale du manga. Ce marché des femmes fait la fierté des productrices locales, explique Madame Leila, une des vendeuses, au micro de Guidi Abdraman.
Dieu merci, nous sommes satisfaits de ces marchés, puisque ça évolue de jour en jour. Si tu ne gagnes pas de bénéfices aujourd'hui, tu pourras en faire demain. Nous vendons de tout ici. Les femmes qu'on nourrit viennent de partout. Au lieu d'aller au marché principal, quand elles sont pressées, elles peuvent passer directement ici et faire leurs achats. Puisque tous les prix sont les mêmes et parfois ici c'est encore plus abordable dans ces petits marchés. Ce que tu peux acheter à 1400 au marché principal, tu peux l'avoir à 1200 ici. Et même pour le transport, tu peux dépenser jusqu'à 200 voire 400 pour faire l'aller-retour au marché principal, alors que tu aurais pu économiser cet argent en venant ici. Ce marché est très fréquenté par les gens de la ville. J'espère que les femmes vont comprendre, au lieu d'aller dans l'autre marché mixte, alors que ici nous sommes entre femmes. Il n'y a aucune violence, ni vol, il n'y a pas de petites disputes.
Et puis la partie magazine de cette édition au Niger, plusieurs parties du pays sont en proie à l'insécurité. Cette situation installe un climat de méfiance et contribue à la naissance de conflits entre les communautés locales. Pour prévenir ces tensions, certaines organisations non gouvernementales organisent des formations sur la communication non violente et la gestion non violente des conflits. Plus de détails avec Amadou Momman Abdelkarim, directeur d'une agence de développement pour un changement de comportement, au micro de Samira Rouafi.
Vous êtes formateur en gestion du conflit. Dites-moi, comment se fait le choix des localités?
Le choix d'abord des localités, c'est fait en fonction des conflits, réellement. Les endroits que la majeure partie des gens fuient, c'est vers ces endroits dont nous partons. On essaie d'identifier les zones qui ont le plus besoin d'accompagnement en termes de gestion du conflit. Je vous donne un exemple. À Tillaberi, nous intervenons dans des zones comme Sanam, comme Abala, comme Bani Bongo, comme Bankilare, comme Inates, comme Ayoru. C'est les zones qu'on appelle des zones rouges.
Et qui sont les cibles?
Des jeunes, souvent, très souvent, des jeunes filles et garçons. Souvent en respectant l'équité, 50-50, souvent 30-30, souvent 15-15, en fonction des activités et de l'ampleur de l'activité. Nous faisons tout pour avoir une représentation de toutes les ethnies. Ça, c'est fondamental. Et avoir toutes les couches sociales. S'il y a des agriculteurs, il faut qu'on ait des représentants des agriculteurs. Il faut qu'on ait des éleveurs. S'il y a des éleveurs, il faut qu'on ait des éleveurs. S'il y a des pêcheurs, ainsi de suite, pour qu'on puisse avoir toutes les couches qui puissent être représentées à travers ce groupe-là. Maintenant, ce groupe doit être identifié de manière officielle, avec l'appui des autorités, avec l'appui de la communauté, les leaders religieux, les femmes, les ONG qui sont présentes dans les communautés.
Et qu'est-ce qu'on apprend à ces jeunes par rapport à la gestion des conflits?
La première des choses, c'est les former dans des outils comme la communication non violente, comme la gestion non violente des conflits, comme l'approche common ground qui est toujours dans la gestion non violente des conflits. Vous avez la communication sociale, des outils aussi comme le cinéma mobile, comme le théâtre participatif. Tout cela, ça fait partie des outils de la communication sociale, comme l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, on identifie en amont avec eux des gammes de formation qu'il faudrait leur faire. Maintenant, si ils arrivent à savoir réellement de quoi on parle, ensuite là, on leur demande de restituer, c'est fondamental. C'est qu'ils ont appris de partir identifier des groupes pour leur dire voici ce que nous, en tant que jeunes, nous avons appris et autres.
Vous avez toujours le résultat souhaité à la fin de ces formations?
On ne peut pas dire toujours. Ce qui est sûr, on parle de changement de comportement. C'est quelque chose qui s'est fait sur le long terme. C'est un processus qui s'est fait à plusieurs étapes, en fonction de plusieurs mécanismes.
C'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À 18h15, vous aurez le forum du studio Kalangou sur la discipline scolaire dans la promotion d'une éducation de qualité au Niger. C'est avec Michel Deji. Dans un instant, le journal en temps magique. Je vous laisse en compagnie d'Ali Tajissir.
Studio Kalangou.
À Diffa.
Alternative FM 99.4 MHz. À Zender.
Geskia FM 89.5 MHz. À Maradi.
Sarawnia FM 102.1 MHz. À Kyoto.
Bonferé Fouma 99 MHz.
Studio Kalangou.